Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un troisième volet d'entretien dans Des clés pour vivre. Bonjour Véronique Garnier-Bovier.
Bonjour.
Merci, j'ai presque envie de dire merci de cette parole que vous nous livrez. Il y a du courage, hein. Il y a du courage parce qu'il y a de la vérité, et permettez-moi, il y a de la délicatesse et de la douceur aussi. Une belle rencontre pour moi dans cette série que j'ai la joie de faire avec vous. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, premier livre témoignage, au troisième jour de L'Abîme à la lumière, un livre paru aux éditions Artege, sur les abus sexuels au sein de l'Église, puisque vous avez été abusé par un prêtre, hein, donc pendant cette période, cette tranche aussi de l'adolescence, à l'âge de 13 ans et demi. Donc on continue. Je me permets de reprendre un des passages de ce livre témoignage, page 74, où vous écrivez. Pendant des années, je me suis demandé ce que c'était de vraies eucharisties. Est-ce que la consécration marchait quand même? Est-ce que les hosties devenaient quand même vraiment le corps du Christ? Est-ce que la petite phrase « lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché » suffisait pour effacer ce que ce prêtre faisait de moi? Et cette autre phrase, « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Qui n'était pas digne? Est-ce que lorsque l'on communie alors qu'on ne voudrait pas, ou bien que l'on ne comprend plus rien, que l'on est dans une totale confusion, on reçoit quand même le corps du Christ? Et lorsque ça nous donne envie de vomir de dimanche en dimanche, qu'est-ce que c'était ces communions? On est au cœur de ce troisième volet d'entretien, au cœur, je pense que l'auditeur a suivi, de ce mystère si grand, le mystère de l'Eucharistie, la Sainte Messe. C'est un passage que j'ai relevé, qui m'a questionné, et je voudrais que vous nous livriez un petit peu ce moment aussi de l'Eucharistie, hein, ce moment aussi où vous approchez pour recevoir ce corps du Christ, hein, et ce moment aussi où vous approchez, où vous êtes vous-même confronté au sacerdoce, au prêtre. Ces mains de prêtre qui ont abusé de vous quand vous étiez enfant.
Oui, ça c'est quelque chose de très douloureux, un vrai tourment qui est en moi depuis si longtemps. En effet, il se trouve que le prêtre qui a abusé de moi disait la messe tous les dimanches à la paroisse de mes parents, où j'allais. Et comment dire, bien sûr, même à 14 ans, ces questions... m'habiter, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Comment est-ce possible que la même personne qui me fait tant de mal, en même temps, dit la messe tranquillement? Et comment est-ce possible que les mêmes mains qui me profanent, en même temps, participent à l'Eucharistie? Enfin, alors, évidemment, quand j'avais cet âge-là, 14 ans, je ne formulais pas ça comme ça dans ma tête. J'étais juste extrêmement mal. J'avais une sorte d'envie de vomir. Mais c'est maintenant que je mets ces mots. En effet, un abus sexuel sur un enfant, c'est comme une sorte de profanation sur une personne. Et à l'époque, bien sûr, je ne pouvais pas mettre ces mots. Mais le malaise, l'incompréhension était là. Et en effet... oui, comme c'est comme si c'était une sorte d'envie de vomir, quoi, et une incompréhension totale, un tourment très grand.
Du dégoût.
Oui. Et alors, ça donne de la culpabilité aussi, parce qu'on se sent coupable d'être dégoûté du corps du Christ. C'est...
Vous avez des réponses? Vous travaillez encore sur cette approche aussi en recevant le corps du Christ, hein, parce que vous avez parlé de tourmenté, de culpabilité. Vous êtes toujours aussi tourmenté quand vous vivez une Eucharistie et que vous approchez de la Sainte Communion pour recevoir le corps du Christ. Vous en êtes où aujourd'hui, Véronique?
J'avance un peu parce que j'ai mis des mots sur le mal-être. Je comprends mieux qu'est-ce qui me met si mal, mais je n'ai pas résolu encore toutes ces questions. Je cherche beaucoup.
Mettre des mots ne libère pas totalement, encore ne restaure pas totalement ce moment grand de la communion ?
Je pense que ce n'est pas encore suffisant pour le moment, mais je suis en pleine reconstruction, restauration par rapport à ça, et je cherche. Je cherche vraiment le sens profond de l'Eucharistie. Le fait d'être abusé par quelqu'un qui est prêtre, ça, tout abus sexuel sur un enfant est déjà gravissime et dramatique. Mais quand il s'agit d'une personne qui est prêtre, c'est pire parce que le prêtre représente quand même Jésus. Enfin, donc... comment on peut plus comprendre ? Est-ce que, et moi, je pense que ma question qui ne se formulait pas, mais qui était sous-jacente, c'était est-ce que ces communions étaient aussi une sorte d'abus de la part de Jésus ? Voilà. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre que peut-être c'était ça la vraie question cachée, que je n'osais même pas formuler. Et ça, je pense que maintenant j'ai compris, non. C'était un abus spirituel de la part du prêtre, certainement. Mais Jésus n'abusait pas de moi, même quand je communiais à contre-cœur, en quelque sorte. Ça, j'ai compris ça. Au contraire, dans ces communions, maintenant, je comprends que Jésus me rejoignait, certainement. Et ce qui m'a permis de comprendre ça, c'est à plusieurs reprises, on m'a donné la communion, un bout de la grande hostie du prêtre, un bout brisé. Quand je reçois un morceau de l'hostie brisée, c'est pour moi très fort, comme si Jésus brisé me rejoint là où moi-même j'ai été brisée.
Une forme de réparation.
Oui, je pense que ça, c'est une consolation, un réconfort. Oui, peut-être une restauration.
Il vous rejoint, il vous entend. Il vous comprend peut-être, dans l'interprétation aussi.
Je ne sais pas, il me rejoint brisé là où moi j'étais brisée.
Brisé peut-être lui-même aussi par son fils prêtre qui, quelque part, commet un peu un acte un peu irréparable.
Oui, en effet, à plusieurs reprises, j'ai reçu le morceau de l'hostie qui est brisé deux fois, parce qu'il y a un petit bout qu'on met dans le calice. Et il y a donc deux brisures. Et je pense que peut-être Jésus était doublement brisé au cours de ces Eucharisties, à la fois pour moi-même et pour le prêtre qui trahissait son engagement.
Vous avez eu une interruption aussi avec la vie sacramentelle ?
Pas trop, mais je me suis débrouillée pour...
C'est-à-dire, je me suis débrouillée.
En fait, je ne me rendais même pas compte, mais...
Vous avez trouvé les bonnes clés pour vous débrouiller, sortir de situations difficiles pour vous, c'est ça ?
Oui, je crois qu'on se débrouille, mais on ne s'est même pas vraiment conscient. Mais...
Avec les moyens du bord.
Oui, en fait, je me suis aperçue que pendant au moins 30 ans de ma vie, je me suis débrouillée pour jamais communier avec un prêtre, ou presque jamais. C'est-à-dire que j'allais toujours me diriger dans la file où il y avait un laïc, même une dame souvent. Voilà,
c'est à faire aller jusqu'au bout.
Ouais. C'était plus facile pour moi, mais c'était pas du tout conscient. Et je m'en aperçois seulement maintenant. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand je peux, je préfère aller communier auprès d'une personne laïque.
Quand vous pouvez, quand il n'y a pas d'autre solution, vous évitez quand même de recevoir le corps du Christ de la main d'un frère prêtre.
Oui.
C'est plus ministre du Seigneur.
Ouais. C'est plus facile pour moi, mais quand je suis obligée, je le fais. Mais...
Et vous viviez comment quand vous êtes obligée, quand vous êtes obligée de recevoir des mains du prêtre,
le corps du Christ ? C'est difficile pour moi, de toute façon, d'être obligée de quelque chose. Parce que être obligée, c'est, ça me renvoie à ce que j'étais obligée de subir.
Et donc là, on touche à la dimension de « il n'y a plus de respect ». On n'entend plus le désir, vos besoins.
Oui, et surtout être obligé de faire quelque chose, c'est pour moi très difficile.
Vous perdez votre liberté.
Oui, et surtout...
Et votre dignité.
Oui, et aussi je ne suis plus tant sujet, je suis un peu de nouveau objet.
Vous travaillez encore sur ce schéma aussi ?
Oui, bien sûr, oui, oui. J'ai pas mal avancé.
Ouais, je crois. Vous vous sentez toujours aussi victime ?
Non. Parfois, je préfère dire que je suis une personne qui a été victime. Je n'aime pas dire que je suis victime, ou alors je dis je suis ex-victime. Mais parce que on n'est jamais que ça. On est toujours une personne, de la même façon qu'une personne qui est abusée n'est pas que un abuseur ou un agresseur, mais c'est une personne qui a abusé, qui a commis des abus, voilà. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire je suis une personne qui était victime, parce que je ne suis pas que ça.
Vous n'êtes pas, hein, oui. Donc je vous reçois en tant que, on est d'accord, hein, avec un peu de légèreté, mais c'est une série qui est particulièrement différente cette semaine, puisqu'on parle d'abus sexuels au sein de l'Église, et que vous avez donc, je le rappelle pour les auditeurs, qui prendra en cours cette troisième émission, que nous consacrons donc cette série avec votre parcours et ce parcours à l'adolescence où vous avez été abusé par un prêtre donc de l'institution de l'Église catholique. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, si vous tenez toujours, demain à la même heure, et c'est une ex-victime, hein, on est d'accord, hein.
Oui.
C'est une ex-victime. À demain.
Oui, merci.
Dans les clés pour vivre.
À demain.